Chers amis Hachem Alechem Tihyu Leorechemim Tovim Veshanim Nehemim, nous poursuivons notre étude de Parashat Vayeshev. Nous sommes à l'épisode de Yehuda et Tamar. Donc revenons un instant sur cet épisode qui est raconté dans la Torah. Et il est dit, donc nous avons vu que Tamar est rentré chez après le décès, donc elle s'est mariée avec Er. Celui-ci ne voulait pas qu'elle tombe enceinte. Donc, il n'a pas voulu avoir des enfants. Il a été éliminé. Yehuda propose à Onan de faire le Yiboum. Ce dernier, sachant que la descendance ne lui appartiendrait pas, alors lui aussi, il a agi comme son frère. Il a été aussi éliminé. Donc, les deux premiers garçons de Yehuda sont décédés. Donc Yehuda, il pense à un moment que cette femme, Tamar, elle est la cause du décès de ses enfants. Il n'est pas au fait, il ne sait pas exactement ce qui s'est passé, pourquoi ses enfants sont-ils morts. Donc il met comme si que cette femme ne portait pas chance et que tous ses époux... qu'elle causait la mort de ses époux. Donc il lui dit, rentre chez ton père, à la maison de ton père, et attends que Sheila grandisse. Donc, mais lui, il n'avait aucune intention de lui donner pour épouse son troisième fils. Après cela, il est dit que la femme de Yehuda est décédée, et Yehuda allait à Timna, pour tondre ses troupeaux. Donc, et ça, Tamar a entendu cela. Elle a su cela. Yuga de Tamar. On a raconté cela à Tamar. Qui a raconté cela à Tamar? Comment elle a su? Ça reste énigmatique. Donc, Chachamim dit, c'est une inspiration prophétique. Elle a su ça d'inspiration prophétique. Le mot Yuga, c'est Amshacha. Le mot Léagid, Ça indique que cela vient de haut. C'est comme le concept de la Haggadah, le récit que nous faisons de la Haggadah, de sort de Pessah, c'est tirer les énergies de la délivrance du plus haut vers la réalité physique. Donc c'est Amshacha, faire en sorte que les flux, les énergies puisse se développer et se répandre au-delà de toute espérance. C'est le sens de Yugad les Tamar. On a raconté cela à Tamar. Donc cette idée-là qu'on a racontée à Tamar, on lui a soufflé l'idée que il y avait ici des énergies, quelque chose de puissant qu'il fallait faire jaillir. Donc, et elle va, elle, entreprendre cette action. Donc, il y a marqué, « Voyugad le Tamar », on a dit à Tamar que Yehuda allait à Timna pour tondre ses troupeaux. Qu'est-ce qu'elle a fait alors? Alors, il est dit que Tamar, « Voyugad le Tamar, les morinés à Hamir », voilà ton beau-père, Olé Timnata la Goz Tsono. Le mot de Timnata fait référence au lieu du Malchut, là où la royauté doit se construire. Cette royauté-là qui doit se construire, elle est encore même pas germée, elle doit germer. Donc il y a des éléments qui empêchent a priori que ces lumières, que ces énergies jaillissent. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Vatasar bigde almenuta, elle a enlevé les vêtements de deuil. Elle s'est couverte betzaif, elle s'est couverte avec un fichu. Vatit alaf, elle s'est enveloppée. Elle s'est placée à la croisée des chemins qui mènent à Timnata. Donc elle n'est pas à Timna elle-même, elle est avant Timna. Donc c'est comme si Si nous avons dit que le mot Timnata fait référence à la royauté, donc elle s'est placée sur le chemin qui y mène. Alors pourquoi elle s'est placée là-bas? Ki ra'ata ki gadal Shela vehi lo nitena lo leisha. Donc elle a vu que Shela avait grandi, qu'elle n'a pas, lui a pas été donnée pour épouse. Alors la question qui se pose, elle se pose cette question, comment donc ces énergies-là vont jaillir? Donc de manière normale, ça va pas se passer. Donc il faut faire quelque chose pour forcer le destin, si on veut. Donc elle est là comme une prostituée. Où elle semble être une prostituée. Et c'est ce qui se passe. Va yirer à Yehuda, va yachever à les zonas. Yehuda l'a vue et il l'a prise pour une prostituée. Pourquoi? Parce qu'elle a voilé son visage. Elle a caché son visage. Donc cette idée-là, alors le Zohar dans Parashat Aharimot, quand il parle de la Avodat Yom Kippourim, et après cela, il passe à l'interdiction d'agir comme les Égyptiens ont agi. Vous n'adopterez pas et vous ne pratiquerez pas les habitudes des Égyptiens. Donc c'est tous les interdits de relations interdites qui sont marqués ici. Rabbi Tzhak Patach. La Sefer Betzion Shem Adonai Utilato Birushalayim. Alors, Rabbi Yehuda, il explique ce verset. Il dit que toute la Torah, Taman Taninan, Shema Kadisha Satim Begalia, Shema Kadisha, le nom d'Hachem, il est fermé, il est inaccessible, il se dérobe, mais il est dévoilé, une fois caché, une fois dévoilé. De même, la Torah, Beoraita, dit Ishema Kadisha, et la Torah qui est elle-même formée, qui est elle-même l'écriture, toute la Torah n'est que le nom de Dieu. Ila, Kadisha Ila, le nom de Dieu suprême, qui est du plus haut. Satim Begalia, elle apparaît, il y a un texte, un sens simple qui apparaît, tel qu'il est écrit, mais il y a des secrets qui sont à l'intérieur. Mais Kolkra de Beoraita, et chaque verset de la Torah, et kol parashta de Oraita, et chaque sujet parasha de Oraita, Satim Vegalia, il contient un secret, il contient une forme. Il y a une forme apparente, simple, un récit, et il y a des secrets qui sont contenus. Et immédiatement, le Zohar donne des exemples. Rabbi Yitzhak, Et Tanya, Amar Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yitzhak ramène cet enseignement de Rabbi Yehuda. Mais hatifuta de tzadeket hada nafka kama tavan l'alma. Il dit de cette arrogance, hatifuta, de l'arrogance, de ce courage d'une femme juste, alors combien elle a agi avec force, alors combien de bien est venu, a été octroyé au monde. Et ainsi qu'il dit qu'il va t'échever péter enaï. Donc il s'agit de Tamar qui s'est placé à la croisée de chemin, à la croisée des chemins qui mène à Timna. Amar Rabbi Abba, parashtada mukhar deoraita satim begalia. De cette paracha là, il est indiqué, c'est une preuve irréfutable que la Torah a une version. Il y a une version de la Torah qui est dévoilée, un récit, mais qui contient des secrets. Ve'a istakalna beoraita kula velo ashkana atar de ikre petach enayim. Il dit, nous avons cherché toute la Torah, il n'y a aucun lieu qui s'appelle petach enayim. Et la kula satim veraza de razinum. Donc c'est un secret, et c'est le secret des secrets qui est enfoui ici. Alors le Zohar poursuit. Il dit, alors il va analyser l'action de Tamar. Vetania, mai ham at tzadeketze zu le ovadada. Qu'est-ce qu'elle a pu penser? Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle est l'idée qui lui est? Comment elle a eu l'idée qu'elle? Qu'est-ce qui a suscité cette idée chez Tamar? Alors elle dit, elle a yadat bebeta de hamuha. Elle savait que elle a appris, elle a vu, elle a compris que dans la maison de Yehuda, il y avait Orchoid, elle a compris comment Akadosh Baruch Hu dirige son monde. Ech, Medaber Aï, Alma, Im Bene Nacha. Comment il conduit, comment il guide Akadosh Baruch Hu dans ce monde, les hommes. Donc c'est le sort de Gilgul, nous dit le Zohar. Ici, c'est comment chaque chose, elle est mitgalgalet. Akadosh Baruch Hu, il tire les ficelles pour amener les choses à se réaliser, même si a priori les choses, les événements sont bloqués ou les choses sont bloquées, mais il y a un Gilgul qui se passe et qui amène les choses à réalisation. Au begin dehi yadat. Et puis et ça, puisqu'elle ça, elle savait. Et c'est parce qu'elle a compris ça que Akadosh Baruch Hu va permettre à cette femme de réaliser la chose. Ve'azla, kama de, alors elle a, ve'azla, kama de atina nizdaman, hu, dans la même idée, alors on nous a enseigné que Batsheva hava mizdamnat le misheshet yemi bereshit le miave ime de Shlomo Malka. Elle dit déjà au début de la création, dans les mots de la création du monde au départ, il était déjà indiqué que Batsheva devait être la mère de Shlomo le roi. Ufacha mizdamnat, de la même manière, ici il est indiqué que Tamar, l'Eda Miyoma dit Barialma, elle était destinée à réaliser cette action-là, de la relation, de créer cette relation avec Yehuda, de sorte de permettre à Pérez de venir au monde afin de déclencher, d'amener au monde la dynastie de Mashiach. Alors, c'est ce qui est marqué. Va t'échever Petah Hanaïm, man Petah Hanaïm, kama diat amar, vehu Yoshef Petah Haouel. Donc, ici, le Zohar fait une relation, établit une relation entre Abraham, qui est assis à la porte de la tente, et elle qui s'est installée à la porte des Hanaïm, des directions, des ouvertures, des visions, sur ce que nous traduisons comme la croisée des chemins. Et ainsi qu'il est dit ailleurs en Égypte, où passa Hachem à la pétach, que le roi a sauté la porte, le pétach, le seuil, l'ouverture. Et ailleurs il est dit, Pitroli, Sha'aret Tzedek, ouvrez-moi les portes de la justice. Donc il y a une notion ici d'ouvrir, d'agir pour ouvrir, pour permettre aux choses de se réaliser. Einaim, c'est quoi Einaim? Einaim, c'est là où tous les regards se portent. C'est l'objet de convoitise ou de désir ou d'aspiration ce que nous espérons réaliser, les choses qui sont d'une importance capitale. De kol Einaim de alma le ahay pitra metzapan. C'est vers cette ouverture que tous les regards se portent et espèrent, aspirent. Ils ont l'ambition de réaliser cela. Asher al derech timnata, c'est quoi ma timnata? Kema de'at amar temunat Hashem yabit. Comme au sujet de Moshe Rabbeinu, il est dit que Moshe Rabbeinu voyait la temuna de Dieu. Temuna, le regard ou bien l'image de Dieu. Ça signifie que Moshe Rabbeinu, il portait son regard sur ce que Dieu voyait. Donc le regard de Dieu se porte sur quelque chose et il l'observe. De même, Moshe Rabbeinu portait son regard sur ce que Dieu voyait, donc sur les projets de Dieu. Donc ça signifie, quel est le projet de Dieu? Sur quoi Hachem porte son regard? Donc c'est la finalité, la volonté de Dieu, comment elle va se réaliser. Et de même, Moshe Rabbeinu portait son regard. Donc c'est ça ce qui est marqué ici. Elle s'est mise dans la position de voir ce que Akadosh Baruch Hu voulait qu'elle réalise, projetait de réaliser, ou voulait que ça se réalise. Elle a observé, elle a réalisé. Elle a inscrit ses actes dans ce projet-là. Donc c'est ça l'idée qui est. Et le Zohar va développer cette idée-là. Donc nous allons observer que Yehuda va l'apprendre. Va yirea Yehuda va yachshevei alezona. Donc il l'observe et Yehuda l'apprend pour une zona. Ce terme-là indique que, nous dit le Zohar, que les dinim, il y avait beaucoup de rigueur. Il a vu qu'elle était enveloppée, entourée, assiégée des rigueurs. Donc il va vayet Elia, il s'est détaché, détourné du chemin pour aller vers elle, pour justement apaiser ses rigueurs, de sorte les rigueurs empêchent les énergies de vie de jaillir. Elle les enferme, il les empêche, et qu'ils emprisonnent. Donc Yehuda, il va s'affairer à réaliser cela. Donc, et ça, c'est dans l'inconscient de Yehuda. Dans l'inconscient de Yehuda, il voit qu'il y a quelque chose. Donc maintenant, comment ça se réalise? Alors, elle avait la volonté. Donc c'est parce que c'est improbable. Comment, c'est ce que le Zohar demande, quelle idée, comment a-t-elle pu avoir cette idée de paraître comme une prostituée devant Yehuda? Quelle chance avait-elle que Yehuda, qui est le tzaddik, qui est un homme d'importance, un homme juste, droit, qui accomplit parfaitement la Torah, comment a-t-elle pu imaginer que Yehuda va se détourner vers elle? Quelle chance avait-elle que ça se réalise? Et comment Yehuda lui-même a-t-il pu agir de la sorte? Donc il y a quelque chose ici qui dépasse. Donc c'est sa volonté. Alors l'idée, elle est comme ça, c'est que la volonté de cette femme, elle avait une volonté forte d'accomplir une mitzvah exceptionnelle et d'attirer le regard de cet homme, qui est un homme d'exception aussi, tzaddik, plus que tzaddik. Il est juste, il est insoupçonnable. Donc le fait de vouloir, de désirer, donc créer une énergie, et elle va suggérer à Yehuda de s'approcher d'elle. Elle a créé les énergies, l'attraction. C'est elle qui crée l'attraction qui va se produire chez Yehuda pour venir vers elle. Et nous allons voir dans les versets. Et il est dit, vayire à Yehuda, vayachshevei alezona. C'est parce qu'il a vu qu'elle était enveloppée, elle était comme, il a pris pour être entièrement dominé par les rigueurs, comme déjà, qui risait sa parole, parce qu'elle a voilé son visage. Ça signifie que les énergies ne peuvent pas jaillir, sont empêchées. Il y a un écran. Voyez, elle est là. Donc il s'est dirigé vers elle. Elle a derrière. Voyons, merhava na avo elai. Donc il lui a dit, je veux avoir un commerce avec toi. Kilo yada ki chalato hi. Il ne savait pas quelle était sa belle-fille. Bâton, mère, ma titeni qui t'avoue elle. Elle lui a dit, qu'est-ce que tu me donnes si tu viens pour payer? Comment tu payes? Voyons, mère, anochi achalar gedi ezim inatson. Il lui a dit, je vais envoyer un gedi ezim, un agneau ou un sa'ir du tson, du troupeau. Ici, il dit pas où il va l'envoyer. Alors le Zohar, il dit, s'il fait relation entre ce Seir Ezim-là, ce Gedi Ezim-là, avec celui qui a envoyé le jour de Kippour. Donc c'est la même considération. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte d'éliminer les rigueurs du troupeau, de sorte qu'il ne va rester, en fin de compte, dans ce troupeau-là, que deux éléments parfaitement pur et parfaitement raffiné, qui sont les deux enfants auxquels elle va donner naissance. Et qui sont-ils, ces enfants-là? C'est Aéronan, en fait. mais pas seulement Erona tels qu'ils étaient de leur vivant, ils vont, elle va, du fait qu'elle veut les réparer, elle va donner, elle va leur associer un supplément d'énergie, qui vont donc ils vont être d'un niveau supérieur à ce qu'ils étaient au préalable. C'est ça l'idée de Gédéasim, parce qu'il n'est pas mentionné où il va l'envoyer. Il dit, il n'est pas dit, je vais te l'envoyer. Va ton mère, imtiteneravon at sholchecha, à la condition que tu donnes une garantie, un gage jusqu'à ce que tu envoies. Va yomer, il lui dit, quel gage je te donne? Alors il lui dit, va ton mère, chotam chaopti lecha umatecha asher beyadecha. Il dit, tu vas donner ton chotam, c'est-à-dire le sceau, le petil qui fait référence au tzitzit, alors ça peut être ou le vêtement qui où il y a le tzitzit, le manteau de Yehuda, ou le vêtement de gloire. Certains expliquent que les gens d'importance portaient une coiffe particulière, ils se couvraient la tête et les épaules, et il y avait des franges. Alors c'est ce vêtement qui indique, c'est cette coiffe qui indique la qualité, le rôle prépondérant de cette personne qu'il lui a donné. Et Matera, ton sceptre, ton bâton de commandement qui est dans ta main. Voyez-t-elle là? Donc il lui a donné. Yehuda ne discute même pas, c'est-à-dire ces objets de pouvoir qu'il donne. Donc là, il est démuni, il est totalement déshabillé. Et pourquoi il les donne? Alors le Zohar dit qu'en vérité, il les donne. Ce sont des éléments particulièrement forts du pouvoir spirituel qu'il confie à Tamar, de sorte que elle a les moyens d'atténuer les rigueurs qui l'enferment. Donc il lui confie des énergies fortes pour éliminer les embûches qui pourrait se dresser et empêcher la réalisation du projet divin. Voyavo et avatar lo. Donc, tout immédiatement du premier rapport, du seul rapport qu'ils ont eu jusqu'à présent, elle a conçu, elle était fertile. Et immédiatement, elle rentre chez elle. Elle va ta con, va télé, va ta sarsaïfa, mais allez, va tilbash big dame, elle retourne chez elle. Et elle va donner, donc il y a ici quelque chose de partisan que le Zohar veut nous enseigner, que la lecture, elle n'est pas seulement une lecture des événements, mais il faut arriver à dépasser la lecture simple du texte et aller chercher à travers les failles qu'il y a dans le texte, les remarques, les critiques du texte, les éléments qui posent problème dans le texte, c'est la question qui se pose sur le sens simple est la fenêtre qui s'ouvre vers le secret. Comme le Zohar a dit, le Shem Hashem, il est caché et dévoilé. Il y a des parties cachées, donc dans ce qui est dévoilé, dans ce qui est apparent, il y a des questions. Alors c'est là où il faut poser le doigt et il faut trouver la question pour arriver à trouver le secret qui est contenu. Il y a ici un élément très intéressant que les Chachamim disent dans le rapport de l'homme à son épouse. Alors nous remarquons du Passouk 16, 17 et 18, il est dit à trois reprises, il lui parla et elle lui répondit. Alors, et là, à trois reprises, il dit, va yomer, va ton mère, va yomer, va ton mère, va yomer, va ton mère. À trois reprises. C'est donc la relation établie, c'est lui qui parle et elle lui répond. Donc, et on remarque que les signes de quantillation qui sont sur il lui dit et elle lui répondit, ils sont identiques. Donc, c'est-à-dire que Yehuda parle à Tamar en lui disant « Vayomer » avec une intonation. Donc, il y a le terme employé et l'intonation qui indique la manière de parler. Et elle lui répond de la même manière. Elle utilise le même terme et elle utilise la même intonation. La deuxième fois aussi. Vayomer, vatomer. La même intonation, les mêmes ta'amim. Trois à trois reprises. Alors pourquoi à trois reprises? Pourquoi utilise-t-elle la même intonation? La Torah indique que lui et elle parlent avec les mêmes termes et la même intonation. C'est pour nous indiquer l'égalité, l'équilibre comment établir l'équilibre dans la relation, l'équilibre, l'harmonie, l'égalité. Ils parlent, ils sont égaux. Donc lui, c'est lui qui parle et elle lui répond. Et ils sont au même niveau, ils sont équivalents. Il n'y a pas un qui est dominant et un qui est dominé. Ils sont à égalité dans la relation. C'est d'une importance capitale. C'est ça qui fait l'équilibre et l'harmonie, ce qu'on appelle le Shalom Bayit. C'est le secret ici, nous disent Rabotenu, du Shalom Bayit. Alors il y a ici quelque chose de très intéressant. C'est qu'elle, comme nous l'avons dit, elle a suggéré à Yehuda. Elle lui suggère de fait qu'elle s'est placée là et qu'elle a cette volonté. Donc il y a des énergies de qui émanent d'elle, qui se dirigent, et Yehuda est attiré par elle, par les énergies qu'elle diffuse. Et donc c'est non seulement une suggestion, c'est sa volonté à elle qui se réalise. Donc c'est comme si que Yehuda, en venant vers elle, réalise la volonté de Tamar. Donc ce n'est pas Yehuda qui est acteur essentiel ici, c'est Tamar qui est, a priori, sollicité, mais c'est l'inverse, en fait, dans la réalité. Elle lui suggère quelque chose, et c'est lui qui vient, qui est demandeur. Et c'est elle qui détient le pouvoir de dire oui ou non. Et elle obtient le gage, et elle obtient satisfaction, puisqu'il a, à l'étonnement de tous, un rapport avec elle, entre guillemets, avec cette prostituée, et il tombe dans le, entre guillemets, le piège qu'elle lui a tendu. Donc on voit que c'est ça la démarche est fondamentale. C'est elle qui tient la barre, en fait, de la réalisation des choses, ainsi qu'il le dit le Zohar, c'est qu'elle va yogad, parce qu'on lui a raconté, on lui a dit, on lui a transmis, yogad, des auteurs, de l'inspiration, la volonté divine, le projet divin de réaliser cette entreprise, de faire jaillir les âmes de Peretz et de Zarar, sont dans un projet divin de réalisation, que c'est elle qui va par l'arrogance, la chatzifut, dit le Zohar, l'arrogance de vouloir réaliser, et le fait de vouloir réaliser dans cette kdusha, en apparence, au fond c'est de la kdusha, mais en apparence, c'est comme il a dit le Zohar, que toute la Torah elle est cachée et voilée. C'est elle qui tient la barre et c'est elle qui va réaliser cela. Et à la fin, il est dit qu'elle a eu les enfants. Alors comment Yehuda y réagit? Donc elle est passible de mort. A priori, elle est passible de mort. Et elle lui envoie, au moment où elle doit être exécutée, elle lui envoie le gage, le manteau, le seau et le bâton, le sceptre. Et là, Yehuda reconnaît. La Gemara, elle dit, Yehuda, tout son nom, il est Al-Shem HaKadosh Baruch Hu. Il y a dans le nom de Yehuda, le Shem Havaya Yudke Vavke. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu en public. Parce que s'il n'avait pas, parce que Yehuda, il aurait très bien pu dire, bon, je connais pas, je sais pas de quoi il s'agit, et il aurait passé sous silence l'affaire, elle serait morte. Elle aurait été condamnée et serait morte. Alors, où en aurait été le projet divin de faire de David un Meller et du Mashiach? Donc, on se serait retrouvé dans une impasse. Le fait que Yehuda reconnaisse, il permet à sa propre personnalité de se réaliser, de s'épanouir. C'est là, Yehuda ne se réalise que si David Ameler vient au monde. C'est ça qu'il a dit. Il a reconnu Yehuda, Yehudi. Ça signifie qu'il reconnaît, non pas ses torts, il reconnaît que c'est elle qui a raison. Et que c'est comme ça qu'il fallait agir. Et ça, à l'opposé de, à la différence de Yosef, Yosef, la Gemara, elle dit que Yosef, il a le nom de Dieu caché. Il n'a pas, et on lui a ajouté qu'un hé. Parce que dans Télim, il est marqué Yehosef. Yosef, il est voilé. Alors lui, il a été Mekadesh Shem Shamaim en cachette. C'est pas en public. Alors le nom de Dieu qu'on rajoute, on rajoute un hé. Ça signifie que le tzaddik, tel que Yosef est défini, il n'est pas apparent. On ne sait pas qui est tzaddik. Le tzaddik, par définition, il n'est pas apparent. On ne sait pas, il ne paraît pas tzaddik. Et on ne sait pas qui il est. Et quand bien même, et quand bien, parce que tzaddik, Yosef, il est tzaddik depuis le début. Alors, l'événement clé de sa tzidkout qui se dévoile dans la Torah, c'est quand il est séduit par la femme de Potiphar et il se sauve. Donc il sanctifie le nom de Dieu, il se préserve, à la différence de Yehuda. Mais Marqué de la Gemara raconte qu'il y avait un chacham qui a entendu parler d'une prostituée exceptionnelle, donc il s'est dit, il a eu le désir d'aller faire cette expérience. Et quand il arrive chez elle, à un moment donné, il enlève son vêtement et le tzitzit lui vient sur le visage. Et le tzitzit, tout de suite, le réveille, il se sauve, il lâche tout, il se sauve, il se préserve. On voit que Yehuda, en enlevant son tzitzit, il n'a pas été préservé. Donc Yehuda, il n'a pas, le tzitzit n'a pas eu d'effet sur lui. Marqué, Petilcha, c'est tzitzit. Alors que pour Yosef, ça a eu un effet, l'effet de le préserver. Parce que Chacham disent qu'il a vu à ce moment-là le visage de son père qu'il observait. Donc un homme, il peut pas avoir des rapports avec aucune femme s'il imagine que son père il observe. C'est pas possible. Donc il s'est sauvé, mais personne n'en a rien su. Et c'est seulement à la fin de l'histoire, quand Yosef, il est arrivé à l'apogée de son pouvoir, que les frères sont devant lui, et que son père le reconnaît, qu'on se rend compte que depuis le début, il était un homme exceptionnel. Donc en vérité, le tzaddik, on ne sait pas qu'il est tzaddik. Et Yosef, il est celui qui permet de par son action, parce que Yehuda, il est... Pourquoi Yehuda il a été descendu de son statut? Parce qu'il a vendu Yosef et que son père est dans l'affliction totale. Donc les frères ils l'ont descendu de destitué. Donc le fait que Yehuda il soit destitué, descendu, il a été descendu. Cette descente là, c'est cette descente là causée par Yosef qui va permettre à Yehuda de s'épanouir. Donc Yosef, il est celui qui permet l'épanouissement de tous les autres. Il nourrit les autres et il permet leur épanouissement. Et c'est ça la ma'ala de... C'est pour ça que cet épisode-là, il a été introduit au milieu de l'histoire du récit de Yosef. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'amen.